Et peut-être quand vous voyez la valeur de la famille, tout de suite vous pensez papa, maman, les enfants. Je vais élargir un peu votre vision ce matin. Parce que la manière dont la parole de Dieu parle de la famille, c'est bien plus large que la cellule nucléaire, c'est-à-dire papa, maman et enfants. Mais avant de parler de cette valeur, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Ah ouais, c'est moi qui ai la zapette. On va regarder ensemble. Est-ce que je peux faire ça? Oui. On va lire ensemble un texte. C'est une conversation qui a eu lieu entre Pierre et Jésus. Pierre vient de faire une belle déclaration. Il vient de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est tout content parce que le Seigneur l'encourage en disant bravo Pierre, c'est une révélation que tu as reçue de mon Père. Et puis il va y avoir un échange entre Jésus et Pierre. Et c'est intéressant ce que Jésus va dire ici à Pierre. En Matthieu 16, 18, on peut lire ensemble. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, alors il fait un jeu de mots, hein, en grec, on ne le voit pas en français, mais il fait un jeu de mots. C'est vrai qu'entre Pierre et Pierre, en français, on pourrait comprendre la même chose. Mais il dit, tu es Pierre, tu es Céphas, et sur cette pierre, et de quelle pierre il parle? La confession que tu viens de faire. Hein, ce n'est pas Pierre lui-même, hein, c'est la confession que Pierre a faite. Eh bien, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a eu un échange de clés entre Pierre et Jésus. Jésus a dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés de mon royaume. Moi, je garde les clés de l'église. C'est-à-dire, moi, je bâtirai mon église. Toi, tu dois t'occuper de chercher mon royaume. Le problème est que souvent nous avons repris les clés des mains de Jésus, nous essayons de bâtir l'Église et nous laissons le soin à Jésus de s'occuper de son royaume. Et on s'étonne que le royaume de Dieu n'avance pas. Jésus a décidé que pour que son royaume puisse avancer dans ce monde, il allait passer par l'Église. En fait, on ne doit pas confondre l'Église et le royaume. Le royaume, c'est le règne de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui part depuis le trône de Dieu et qui un jour va remplir tout l'univers, toute la terre sera remplie du royaume de Dieu un jour. Ça c'est bon, n'est-ce pas? C'est comme ça que le lion va manger avec l'agneau, que l'enfant va mettre sa main dans une antre de serpent sans se mordre les doigts. Pourquoi? Parce que quand le règne de Dieu va être là sur la terre, tout dans l'univers sera maintenant sous l'autorité de Jésus-Christ. Et la finalité du film de notre vie, c'est qu'un jour, Jésus va régner totalement. Et il le dit ici, un jour, je vais régner. Alors aujourd'hui, il ne règne pas encore tout à fait, on pourrait dire, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre vie ou dans la vie des autres. Mais néanmoins, Pierre a reçu les clés du royaume, ça veut dire aujourd'hui, Pierre, tu peux actionner, toi et l'Église, vous pouvez actionner les clés de mon royaume. Et chaque fois que nous cherchons le royaume de Dieu, nous permettons au royaume de Dieu d'avancer. Et l'Église, eh bien, c'est l'outil entre les mains de Dieu qui permet au royaume de Dieu d'avancer. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai parfois travaillé avec des outils qui étaient mal étalonnés. Si vous prenez un niveau à laser et qu'il est mal étalonné, vos murs ne seront pas droits. Si vous utilisez un tournevis qui est cassé, vous n'arriverez pas à tourner votre vis. Si vous prenez un marteau qui est cassé, vous n'arriverez pas à frapper. Le problème est que si l'outil n'est pas bon, eh bien, le travail ne sera pas bien fait. Et Jésus veut s'assurer que l'outil soit bon. Et c'est pour ça qu'il dit à Pierre, Pierre, je m'occupe de l'outil. Toi, cherche le royaume, toi, fais le travail. Moi, je vais m'occuper de l'outil. Et vous savez, le plus grand danger pour nous en tant qu'Église, c'est d'essayer nous-mêmes de bâtir l'Église. Et nous, les pasteurs, on est en grand danger de vouloir bâtir l'Église. Et nous-mêmes, tous les membres ici de l'Église, nous sommes en danger lorsque nous cherchons à bâtir l'Église plutôt que de chercher le royaume de Dieu, plutôt que de chercher le règne de Dieu dans notre foyer, dans notre famille, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, lorsque nous nous occupons d'essayer de rendre l'Église comme nous pensons qu'elle devrait être, c'est là où nous sommes dans une grande tentation. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, eh bien tout doucement, on commence à changer les normes de l'Église et on finit par adapter l'Église à notre image. Et donc je vais parler de deux choses aujourd'hui que Jésus est venu instaurer dans son Église et qui ne changeront jamais, même quand Jésus va revenir. Et ces deux notions, c'est la notion de famille et la notion d'honneur. Il y en a plein d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif, mais on va parler de ça aujourd'hui. Alors, le temps que... Voilà, je retourne dans mes notes. Le plus important pour nous, c'est de comprendre que c'est Jésus qui établit les normes de ce que doit être son Église. Je suis effrayé de voir à quel point, aujourd'hui, on est en train d'essayer de changer les normes de l'Église. J'entends beaucoup, oui, mais c'était à l'époque, oui, mais c'était culturel, oui, mais c'était pas ce que Jésus voulait vraiment dire, oui, mais il faut vivre avec son temps. J'entends beaucoup ça. Comme si nous avions le pouvoir de modifier les normes de la famille de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et si nous voulons être un outil pertinent, j'ai vu que votre vision était d'impacter notre région. Merci Seigneur, on a la même vision et on est dans la même région. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Si nous voulons travailler, Betsalel, l'Église sans frontières, si nous voulons impacter ce monde, nous devons veiller à ce que l'Église soit selon les normes de Jésus. Sinon, nous serons un outil mal étalonné, un tournevis qui est bancal et un marteau cassé. Dieu ne peut pas se servir de ça. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait vraiment rager quand j'utilise un outil qui ne marche pas, parce que je ne peux pas faire du bon travail. On va lire ensemble un texte dans Éphésiens, on va ouvrir nos Bibles, dans Éphésiens chapitre 5, et on va lire du verset 5, du verset 15, pardon, verset 6, non, je répète, de Éphésiens 5, 15 à Éphésiens 6, 9. C'est un petit passage assez long, mais quand même, on va avoir besoin de le lire ensemble. Voilà ce que Paul fait. Je donnerai le contexte, bien sûr, de ce passage pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que nous lisons ça ensemble ce matin. Verset 15 du chapitre 5. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien.
Et vous, maître, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Waouh, quel programme, n'est-ce pas ? Un passage qui a perdu de sa popularité dans notre génération, puisque lorsqu'il s'agit de parler de soumission et d'autorité, souvent, ça fait friser nos cheveux, pour du moins ceux qui en ont encore. C'est intéressant de voir dans ce texte à quel point Paul passe, si vous lisez Éphésiens 4, 5 et 6, vous allez voir que Paul passe de l'Église en tant que famille à la famille nucléaire, papa, maman, les enfants, pour revenir ensuite à l'Église. Pourquoi ? Vous devez comprendre ceci, c'est que nous sommes les héritiers de la pensée gréco-romaine. Nous avons été façonnés dans notre tête avec une mentalité et dans la façon gréco-romaine de penser, tout est séquencé. Le spirituel est séparé du naturel, le corps est séparé de l'âme. Et tout est séparé. Et il y a une structure dans la pensée gréco-romaine qui n'a rien à voir avec la pensée hébraïque, avec la pensée que Dieu a enseignée au peuple d'Israël. Et à cause de ça, on fait des séquences. Par exemple, j'entends souvent des gens qui disent « c'est d'abord Dieu, puis ma famille, puis l'Église ». Ben ça, c'est purement gréco-romain. La pensée hébraïque, c'est « Dieu et la famille, dont ma famille ». Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que tu ne peux pas dire « Dieu, puis ma famille, puis l'Église » parce que tu es en train de créer une séparation que la parole de Dieu ne crée pas, mais que le monde gréco-romain crée. Et donc on a besoin de changer notre mentalité, c'est pour ça que je n'aime pas quand les gens disent « ma famille d'abord, puis l'Église ». Non, ta famille c'est toute l'Église. Preuve en est, c'est que quand tu seras dans le ciel, ta femme ne sera plus ta femme, tes enfants ne seront plus tes enfants, mais tes frères seront toujours tes frères et tes sœurs seront toujours tes sœurs. Ça veut dire que ce qui est éternel est plus important, plus primordial encore. Et c'est pour ça que Jésus, quand il a vu sa mère et ses frères arriver et qu'on lui a dit « voilà ta mère, voilà tes frères », Jésus a dit « qui sont mes frères ? Qui sont ma mère ? Voici mes frères, voici mes sœurs, ceux qui m'écoutent. » Autrement dit, ma famille, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger notre femme ou nos enfants. Loin de là, la preuve, c'est que Paul va donner des recommandations bien particulières pour que la famille marche bien. Mais ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question holistique, une question qui englobe tout. C'est-à-dire que pour ma part, avec ma femme et moi, on n'a jamais fait de séparation entre l'Église et notre famille. Pour nous, c'est notre famille, c'est l'Église, et nos enfants en font partie. Ça change complètement votre mentalité. Ce qui fait que nos enfants, aujourd'hui, disent « mais l'Église, c'est ma famille ». Combien de parents, aujourd'hui, pleurent parce que leurs enfants ne vont plus à l'Église ? Combien de parents pleurent aujourd'hui parce que leurs enfants ne marchent pas avec Dieu ? Parce qu'on a fait cette dichotomie. Moi d'abord, l'Église ensuite. Si vous dites l'Église ensuite, c'est que vous êtes en train de dire à vos enfants, l'Église, ce n'est pas important. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai ma famille. Et donc, il est important, et je m'adresse aux pères de famille ici, il est important que vous puissiez comprendre et saisir que Dieu vous attend à genoux pour ramener votre famille dans l'Église. Parce que c'est là la vraie place. Ça va ? En fait, quand vous regardez dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé le plus pour parler de l'Église, c'est des mots familiaux. Père, mère, frère, sœur, fils, fille. C'est la notion de la famille. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation dans la pensée de Paul. C'est pour ça qu'il passe facilement de la communauté globale au noyau familial, puis il revient à la communauté globale, parce que pour lui c'est normal. Et ce qu'il est simplement en train de dire, c'est qu'effectivement, si tu veux pouvoir être crédible dans la famille de Dieu, il faut d'abord que tu sois crédible dans ta famille à toi. Et bien sûr que je vais passer plus de temps avec ma femme et mes enfants qu'avec mes frères et sœurs. C'est normal, puisqu'on vit sous le même toit. Mais quand je prie pour ma famille, je ne prie pas que pour ma femme et mes enfants, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour vous. Betsalel. Vous êtes dans mes prières. Vous êtes associés, comme les autres églises de ce réseau destiné, dans mes prières lorsque je prie pour ma famille. On a besoin de laisser le Saint-Esprit changer notre mode de fonctionnement. Et quand on parle de famille, eh bien, on touche forcément aux relations qui se jouent dans l'Église, mais aussi dans le foyer. Et ce que Paul dit, c'est que Jésus est devenu le nouveau chef de famille. Je bâtirai mon Église. Il est devenu le nouveau chef de la famille. Et ce nouveau chef de la famille a changé les rapports dans notre famille. Et nous, en tant qu'Église, on a besoin de comprendre quel ADN Jésus est venu mettre dans cette famille pour que nous puissions vivre selon cet ADN. Et donc aujourd'hui, on va voir ce matin, on va voir ensemble trois choses. En tant que famille, en tant que nouveau chef de famille, Christ a introduit un nouvel ADN dans la famille de Dieu. En tant que nouveau chef de famille, Christ a introduit une nouvelle dimension de l'amour. Et troisièmement, en tant que nouveau chef de famille, Christ a introduit un nouveau rapport à l'autorité. En fait, on doit comprendre pourquoi Paul donne de telles recommandations. Pourquoi est-ce que Paul passe tout un coup, alors qu'il est en train de parler de l'Église, du plan de Dieu, tout un coup il passe à la famille. Pourquoi est-ce que, à un moment donné, il va faire ses recommandations? Mais tout simplement parce que Paul est en train de mettre une bombe. Et on va vous l'expliquer pourquoi. C'est une bombe, c'est une révolution ce que Paul est en train de dire. Et pourquoi? Juste avant, en Éphésiens chapitre 3, verset 14, il a dit « À cause de cela », il faut toujours faire attention aux petits mots dans la Bible, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Vous savez, si vous connaissez bien l'histoire du peuple d'Israël, vous savez que les Juifs ne prient pas à genoux, ils prient debout. Habituellement, ils sont debout et ils prient. Paul dit ici, je me mets à genoux. Et quand un Juif se met à genoux, c'est parce que c'est extrêmement important et solennel. Il ne se met pas à genoux n'importe comment. Il se met à genoux parce que c'est une occasion d'une gravité solennelle. Et Paul dit, à cause de cela, je me mets à genoux. À cause de quoi? Eh bien, à cause de tout ce qu'il vient de dire en Éphésiens 1 et 2. Qu'est-ce qu'il a dit dans Éphésiens 1 et 2? Il vient de décrire et d'exposer la beauté de l'évangile de Jésus-Christ et ses conséquences. Et notamment, que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, que nous sommes son ouvrage. Il nous dit que nous avons été édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu en esprit. Il nous dit que nous ne sommes plus étrangers, mais des saints. Il nous dit que nous sommes citoyens des gens de la maison de Dieu, que nous sommes membres de la famille de Dieu, que nous soyons juifs ou non juifs. Il vient de dire tout cela, il expose la beauté de l'évangile, et alors qu'il vient décrire la beauté de l'évangile, il dit « À cause de tout cela, maintenant, je me mets à genoux devant Dieu. » Devant qui? Devant le Pater, Père, de qui toute famille, patria, tire son nom. Et il y a un jeu de mots là dans la phrase de Paul. Pater, patria, père, famille. Et vous savez, ce jeu de mots est important. La famille vient d'un père. Paul se met à genoux parce que quelque chose de puissant et de souverain et de profondément saint s'est accompli. Qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, s'est complètement impliqué d'une manière extraordinaire dans la création de la famille qu'est l'Église. Le Père, par le Saint-Esprit, donne naissance à cette nouvelle famille, la famille de Dieu dont Jésus est devenu le nouveau chef de famille. Et il y a un nouveau chef de famille aujourd'hui dans la famille de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui change tous les rapports dans la famille. Alors, première chose qu'on va voir ensemble, c'est en tant que nouveau chef de famille, Christ a introduit un nouvel ADN dans la famille de Dieu. Vous savez comment les théologiens appellent le passage que nous venons de lire? Ils appellent ça le code de la maison. Alors, ce n'est pas un mot nouveau, parce que c'était un mot qui était utilisé déjà à l'époque gréco-romaine. Ça a commencé avec Aristote, donc 400 ans avant Jésus-Christ. Il y avait des codes bien ancrés dans la société. Et donc, je vais vous expliquer un peu le contexte pour que vous compreniez à qui Paul s'adresse. Le danger quand on lit la Bible, c'est d'essayer de tout de suite ramener la Bible à notre vie d'aujourd'hui. Mais on a besoin de comprendre le contexte dans lequel Paul a compris, parce qu'on risque de passer à côté de certaines subtilités et surtout certaines vérités, et risque même de les déformer. Donc, on a besoin de d'abord poser le contexte. Et donc, les codes qui régissaient la société à l'époque, et qui régissait d'ailleurs la famille, elle remontait donc depuis longtemps à Aristote, 400 ans avant Jésus-Christ. Tout le monde connaissait l'organisation de la maison qui était basée sur trois types de relations, mari-femme, père-enfant, maître-esclave. C'est pour ça que Paul reprend exactement cette nomenclature dans son passage. Tous vivaient dans la même maison. Intéressant, hein? Nous, dans notre monde occidental, c'est papa, maman et les enfants. Pas question d'avoir la belle-mère. Hein? Mais dans le monde à l'époque, c'est tout le monde vivait ensemble. Maître-esclave. Et en fait, dans ce monde gréco-romain, les maris étaient connus pour avoir des partenaires multiples, y compris des partenaires masculins. Et ils pouvaient avoir un partenaire pour le plaisir sexuel, un partenaire pour le plaisir intellectuel, et la femme servait uniquement à faire des enfants. Et donc, le mariage servait en général à avoir des héritiers et à élever des héritiers, c'est tout. Les pères étaient connus pour traiter durement leurs enfants. Et en fait, il y a de très, très nombreux pères qui n'inscrivaient même pas le nom de leur enfant dans leur héritage tant que les enfants n'étaient pas parvenus à la maturité. Pourquoi ? Parce que la mortalité infantile était énorme. Et puis aussi parce que certains parents, pères, vendaient leurs enfants en tant qu'esclaves pour pouvoir réguler le nombre de personnes dans leur famille. On connaît aussi des choses comme ça pour réguler, hein. Et juste pour contrôler la famille. Et puis, les maîtres étaient connus pour traiter leurs esclaves comme des objets d'animaux. Certains étaient exploités comme esclaves sexuels. Et le fait de battre son esclave, le fait de le violenter psychologiquement, ou de le maltraiter, ce sont des faits qui sont très bien documentés dans l'histoire. On s'aperçoit que les maîtres étaient très durs. Ils avaient tout pouvoir. Ils pouvaient te tuer et ils n'étaient pas coupables. Ils n'étaient pas jugés. Tu avais le droit, tu tuais un esclave comme tu cassais un vase. Ça, c'était la culture qu'il y avait à cette époque-là. Et toute l'organisation de la vie de la maison, elle était générée par ces codes. C'était des codes qui étaient là et tout le monde se pliait à ces codes. C'était le code de la maison. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça engendrait énormément de souffrances. Hein. La fidélité, le manque d'amour, la violence, les drames familiaux. Imaginez une femme qui épouse un homme, elle l'aime et tout d'un coup, il lui dit « Mais non, t'es juste là pour refaire des enfants, quoi. Moi, je vais aller prendre mon plaisir avec quelqu'un d'autre, avec un homme, une femme, à mon gré. » Et tu dis rien parce que c'est le code, c'est la loi. C'est la loi. C'était comme ça que ça se passait à ce moment-là. Et bien sûr, il y avait beaucoup de souffrance. Et vous savez, nous sommes les héritiers du monde gréco-romain. Et laissez-moi vous montrer que rien n'a changé. Aujourd'hui, le mariage continue à être bafoué dans notre société. Il y a encore toujours des hommes qui se marient pour avoir des enfants et puis qui vont voir ailleurs. Ça n'a pas changé. Les enfants continuent à être délaissés. Alors bien sûr, ils ne sont pas, aujourd'hui il y a peu de pères quand même qui violentent psychologiquement leurs enfants, ça arrive. Hein. Mais combien de pères démissionnent de leur responsabilité d'élever leurs enfants et les exposent à travers les réseaux sociaux, à travers Internet et les films à toutes sortes de violences psychologiques ? Ça continue. Aujourd'hui, certains parents du temps de l'époque gréco-romaine déposaient même leurs enfants à la décharge d'immondices, en disant bon, si quelqu'un le récupère, tant mieux, mais puis tant pis quoi. Mais aujourd'hui, combien d'enfants sont déposés à la décharge de l'impureté sexuelle dans ce monde, de la violence dans ce monde, simplement parce que les parents ne les exposent. Allez, tu me déranges, prends la télé, prends ta tablette et laisse-moi tranquille. Ça change pas. Et c'est tout aussi violent, mes frères et sœurs. Ça paraît soft parce qu'on ne touche pas au corps, mais on brise l'âme. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une véritable campagne de destruction de la place de l'homme et des pères dans la société. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a donné une parole prophétique en disant, j'étais jeune dans le ministère à ce moment-là, ils m'ont dit, le Seigneur, je crois que le Seigneur t'appelle à lever des femmes dans le ministère. J'ai chopé cette parole et je me suis dit, oui, c'est vrai, je sens bien que j'ai envie d'aider mes sœurs à rentrer dans le ministère. Et je me suis toujours appliqué jusqu'à ce jour à aider les femmes à rentrer dans leur ministère. Pourquoi ? Parce que l'Église a besoin de ces femmes spirituelles qui aiment Dieu et qui sont utiles pour construire le corps. Alors chez nous, je les encourage à prêcher, je les encourage à présider, je les encourage à servir. Je l'élève, j'aime bien l'élever. Mais vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée avec le temps, c'est que le plus grand enjeu n'est pas de libérer les femmes dans le ministère, c'est de garder les hommes dans le ministère. Ça, c'est le plus grand enjeu. Parce que je vois de plus en plus que dans les églises, il y a des femmes courageuses et pieuses qui continuent à venir et qui pleurent le dimanche matin parce que leur mari n'est pas venu avec elles, parce qu'il est allé à la maison et que tout doucement, les adolescents imitent leur père et ne viennent plus à la maison. J'en connais plein des histoires. Je visite plein d'églises autour de moi et je vois le cri des femmes qui dit « Mais où sont nos hommes ?» Ma femme, son ministère, c'est d'être pasteur pour les femmes. Elle aime passer beaucoup de temps avec les femmes. Et elle disait dernièrement, est-ce que tu peux dire aux leaders d'église, s'il vous plaît, d'aller voir les hommes et de dire, les hommes, est-ce que vous pouvez prendre votre place dans l'église? Parce que si tu savais le nombre de confidences que j'ai de femmes qui pleurent parce que leurs maris ne prennent pas leur place dans le foyer et ne prennent pas leur place dans l'église. Et aujourd'hui, on fait tout pour abattre le rôle de l'homme. On combat quelque chose qu'on a appelé le patriarcat. Mais vous êtes en train de réaliser qu'on est en train de le remplacer par le matriarcat. Parce que si vous chassez quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui va le remplacer. Hein. Ce n'est pas marqué autre chose que le pater qui donne la patria. Aujourd'hui, il y a l'insécurité complète dans le monde dans lequel on vit. Vous savez, le pire, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde, le pire, c'est ce qui se passe dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que l'Église, elle est en train de perdre sa véritable nature. Elle est en train de déformer elle-même la notion du mariage. On est en train, nous-mêmes, d'accepter des normes que nous ne devrions jamais accepter. L'Église devrait être le lieu où le monde pourrait voir comment un homme aime sa femme, comme Christ aime l'Église. Le monde devrait voir combien une femme peut faire confiance à son mari parce que son mari en est digne et parce qu'elle a confiance dans le Seigneur. L'Église devrait être l'endroit où le monde viendrait chercher en disant « Eh, vous êtes des experts dans la manière d'éduquer vos enfants, est-ce que vous pouvez venir nous enseigner ?» L'Église devrait être le lieu où les patrons et les salariés se côtoient et se respectent parce qu'ils savent qu'ils sont frères avant tout. Et entre parenthèses, c'est pas parce que ton frère est pas ton patron que tu dois pas le respecter en tant que patron. Moi, je connais des patrons, ils ont pleuré d'avoir embauché des chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'était toujours leur patron. Et Paul donne des consignes ici très précises, il dit « Vous les salariés, s'il vous plaît, traitez vos patrons comme Christ, soumettez-vous à eux comme vous vous soumettez à Christ. » Et il dit aux patrons « Hé, n'oubliez pas que ce ne sont pas vos esclaves, ce sont vos frères. » Paul est plein de sagesse dans ce qu'il est en train de donner. C'est révolutionnaire pour l'époque et c'est toujours révolutionnaire aujourd'hui, si on veut bien écouter. L'Église devrait être l'endroit où le monde peut voir que Dieu a confié l'autorité à des hommes qui exercent cette autorité. Je vois trop de femmes courageuses et pieuses dans les églises qui pleurent l'irresponsabilité de leur mari. Et l'Évangile, eh bien, il nous donne un nouvel espoir. Pourquoi ? Parce que, en tant que nouveau chef de la famille, Jésus vient changer tous les codes de la famille. Tous les codes de la famille sont changés. Jésus amène une nouvelle éthique dans la famille. Et cette éthique va comporter deux aspects, c'est l'aspect de l'amour et l'aspect de l'autorité. C'est l'ADN du pater pour la patria. C'est mon deuxième point aujourd'hui. En tant que nouveau chef de famille, Christ a introduit une nouvelle dimension de l'amour. On va lire ce merveilleux passage. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Waouh ! Alors, parfois, quand on lit ce texte, on dit « Ouais, quand même, il est marqué que les femmes doivent être soumises à leur mari, c'est pas rigolo pour les femmes. » Moi, je trouve que ce passage, il est beaucoup plus facile pour les femmes que pour les hommes. Parce qu'aux hommes, il est marqué qu'ils doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et comment Christ a aimé l'Église ? Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. J'aime beaucoup ce que Geoffrey Bromley dit. De même qu'il a créé l'homme à son image, Dieu a créé le mariage humain à l'image de son mariage éternel avec son peuple. Est-ce que vous savez que le mariage, tout mariage sur la terre, est une parabole, une image du mariage entre Christ et son Église ? Voilà pourquoi le mariage est sacré. Voilà pourquoi Dieu a de la haine pour le divorce. Parce que chaque mariage qui échoue est une cartouche dans le pistolet de l'ennemi pour détruire l'image de l'union entre Christ et son Église. Et voilà ce que John Piper dit. J'aime beaucoup John Piper. Pour comprendre le sens que Dieu donne au mariage, il faut comprendre qu'il s'agit d'une copie de l'original, de la métaphore d'une réalité supérieure, d'une parabole d'une vérité profonde. L'original, la réalité, la vérité, c'est le mariage de Christ avec son Église. Vous savez, quand j'ai compris que la manière dont j'aime ma femme est une parabole racontée au monde sur la manière dont Christ aime son Église, ça me rend profondément responsable. Ça veut dire que je veux tout faire pour aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que je vais soigner mon mariage. Ça veut dire que je vais en prendre soin. Combien d'entre vous ici avez vécu des drames parce que vous vous êtes unis à des hommes ou des femmes que vous avez aimés et qui se sont promis un engagement vis-à-vis de vous et qui vous ont trahi? Il n'y a rien de plus douloureux que la trahison dans le mariage. Certains d'entre vous, vous avez aimé des hommes et des femmes. Et votre conjoint est auprès du Seigneur maintenant. Vous savez ce que c'est que la souffrance de la solitude. Parce qu'un mariage, c'est sacré. Un mariage aux yeux de Dieu, c'est tellement sacré. Et je comprends la souffrance qu'il y a chez même beaucoup de chrétiens qui ont vécu. Certains ont subi un divorce. Certains ont subi des trahisons. Certains, parfois, ont eu un comportement irresponsables et leur conjoint les a quittés parce qu'ils ont été irresponsables. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même si aujourd'hui tu réalises que ton mariage est une histoire brisée, j'aimerais te dire quelque chose. Jésus est le réparateur des brèches. Jésus a toujours un espoir pour quiconque a vécu un drame. Et la preuve, c'est sa discussion avec la femme samaritaine qui avait déjà eu 5 maris, et qui n'avait pas réussi à garder le cinquième, et en avait un autre encore qui n'était pas son mari. Jésus n'est pas venu pour la dire « Et je vais te jeter dans le puits ». Non, il s'est adressé à elle et lui a montré à quel point Jésus pouvait être pour elle une restauration. Si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Alors il y a toujours de l'espoir, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais ça n'enlève pas le fait que le mariage, c'est sacré. Et à l'époque, croyez-moi, c'était une révolution quand Paul raconte ça. Imaginez un peu les hommes qui disent « Moi, j'ai juste une femme pour avoir des enfants, j'ai plein de... Ah bon, je dois changer ? Ah bon, je dois plus aller voir ma petite blonde ?» C'était une révolution. Parce que dans la patria du pater, c'est l'époux et c'est le père qui donne le ton dans la famille. C'est le père qui donne le ton dans la famille. C'est le père qui donne le ton dans la famille. C'est le mari qui donne le ton dans la famille. Il est né pour ça. Il est créé pour ça. Il est le chef de famille. C'est lui qui ouvre et ferme les portes. C'est lui qui empêche le diable de rentrer dans sa maison pour le détruire. Mais pourtant, dans les réunions d'intercession, je vois que des femmes. Pouf. Non, mais je ne suis pas là pour vous caresser ce matin. J'ai trop de respect pour la parole de Dieu et j'aime l'Église et je veux voir l'Église être l'Église. Je ne veux pas voir l'Église être une poule mouillée. C'est l'époux qui donne le ton. Tout comme ce sont les responsables, les pasteurs, les anciens qui donnent le ton à une Église. Parce que Dieu a un profond respect pour l'ordre qu'il a établi. Alors, aimer Christ, c'est une révolution. Aimer comme Christ, c'est une révolution. Mais ça veut dire quoi, aimer comme Christ? La Bible nous dit que l'amour dont Jésus nous a aimés, c'est un amour sacrificiel, un amour qui coûte. Si aimer ta femme ne te coûte pas, c'est que ton amour n'est pas de l'amour. Il y en a beaucoup qui ont un livre dans leur Bible qui s'appelle Hollywood. Hollywood, chapitre 4, verset 2. Si tu n'es plus amoureux de ta femme, change de femme. Aimer comme Christ, c'est se donner nous-mêmes à Dieu pour les autres. Et je suis certain que si les chefs de famille et les chefs d'église aimaient Christ comme il a aimé l'église, il y aurait probablement beaucoup moins de rébellion et beaucoup moins d'attaques contre la famille et l'église dans ce monde. Et regardez avec moi comment Jésus a commencé à nous montrer son amour pour son église. Philippiens, chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, pardon. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà comment les hommes doivent aimer leur épouse. Voilà comment les chefs doivent être dans la famille, dans l'église. Ils doivent se dépouiller. De quoi tu dois te dépouiller ? Tu dois te dépouiller de tes droits. J'ai beaucoup aimé l'interview de frère André qui a été à l'origine de Portes Ouvertes. C'était l'une de ses dernières interviews. Et un jour, il a raconté qu'un jour, il était épuisé, qu'il s'est retrouvé au mont Sinaï et il a dit « Seigneur, j'en peux plus, toutes ces situations me pèsent, j'ai envie de tout arrêter. » Et là, alors qu'il était tout seul devant le Sinaï, il a entendu le Seigneur lui dire « Écoute, André, tu peux renoncer à tes privilèges. Mais tu ne peux jamais renoncer à tes responsabilités. » Et aimer en tant que chef, c'est renoncer à ses privilèges pour assumer ses responsabilités. Ça veut dire que quand j'ai une pensée qui vient dans mon esprit pour penser que peut-être une femme serait meilleure pour moi, je me dépouille de cette pensée. Quand je vois ma femme qui a besoin d'aide, et que je suis fatigué et que je m'entends dire « j'ai le droit de me poser et de lire un livre », je renonce à mon privilège pour assumer ma responsabilité d'être avec elle. Quand je vois mon fils qui est en train de prendre une voie mauvaise et que je le vois en train de regarder des choses qu'il ne devrait pas, je renonce à mon confort pour aller prendre ma responsabilité d'y aller voir. Lorsque je suis pasteur et que j'entends des critiques contre moi, je renonce à mon droit de me venger, je renonce à mon droit de tirer justice moi-même et je viens aider la personne à se repentir. C'est comme ça que Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il est devenu un serviteur et il est allé, la Bible nous dit, jusqu'à l'obéissance de la croix. Jésus n'a rien attendu de nous pour nous aimer. Il n'a pas dit « Bon, ben, je veux bien aller sur la terre à condition qu'il y ait au moins 50% qui soient d'accord que je vienne. » On n'a pas voté pour que le Sauveur vienne. Il est venu bien avant, et il a décidé bien avant la fondation du monde de venir. Il s'est dépouillé, il est venu. Et vous savez, c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on mesure à quel point Jésus dit qu'il faut se dépouiller pour être capable d'aimer. J'ai beaucoup aimé ce que Maria, une femme de notre église qui fait partie de notre équipe, a dit. Tu peux croire que tu aimes des personnes, mais c'est quand tu vis des souffrances de la part de ces personnes que tu te rends compte que tu peux arriver au bout de ton amour humain. Et c'est seulement à ce moment-là que tu as le choix d'aimer comme Christ et tu vas dépasser cet amour humain. Mais c'est Jésus qui doit mettre son amour en nous pour qu'on y arrive. Moi, je ne peux pas aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église si Christ ne m'aide pas à aimer ma femme. Je ne peux pas aimer mes enfants comme Christ a aimé son Église si jamais Christ ne met pas son amour en moi. Je ne peux pas aimer l'Église. Vous savez, je vais vous dire quelque chose en tant que pasteur et je vais parler pour votre pasteur. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on prend des coups dans le ministère. À chaque fois que quelqu'un franchit la porte de ce bâtiment pour la première fois, cet homme devient responsable avec sa femme. Ses anciens deviennent responsables. Et tout de suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils les accueillent. Parfois, ils ont mis le pataquès ailleurs, mais ils les accueillent. Parfois, ils ont des vies complètement abîmées, mais ils les accueillent. Parfois, ils sentent le cochon, mais ils les accueillent. Ils les accueillent pourquoi ? Parce que Christ nous demande de les accueillir. Alors on vient, on prend soin d'eux, on les entoure de soins, on les aime, on donne notre cœur pour ces personnes. Et un jour, ils partent parce qu'ils ne sont pas contents, parce que les lampes sont jaunes et pas bleues. Et vous savez, vous vous partez, mais eux saignent. Ils saignent parce qu'ils vous ont donné leur cœur. Et en tant que pasteur, et en tant qu'ancien, on doit renoncer à nos droits. On n'est pas là pour se plaindre. On est là pour aimer. Et si tous les chefs, dans les familles et dans l'Église, se dépouillaient de cette manière, ce serait facile pour la famille de se soumettre à notre responsabilité. C'est comme ça que Jésus nous a aimés à la croix. C'est comme ça. C'est la patria. C'est l'endroit où le Pater a mis son ADN. Et vous savez quel est le but de l'amour ? Il y a un but à l'amour. Et ce but est le suivant. Christ nous a aimés, nous a dit le texte, afin de nous préparer, de préparer son épouse et de préparer un mariage. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Il nous a préparés pour préparer un mariage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, en tant que chef de famille, je dois aimer ma femme et tout faire pour qu'elle soit prête le jour où Jésus viendra la rechercher. J'ai dit à mes fils, les gars, quand ils se sont mariés, les gars, Dieu vous a donné une femme. Il vous a confié sa fille. Quand vous allez arriver là-haut, il va vous demander dans quel état tu me la rends. Et je dis toujours, on n'est pas responsable des rides. Ça, ce n'est pas notre faute. Mais en quel état tu la rends ? Dans quel état intérieur tu la rends ? Est-ce que quand tu vas arriver devant Dieu, tu pourras dire, Seigneur, tu m'as confié une femme qui valait 5 talents, je t'en rends, elle en vaut 10. Ou est-ce que tu vas enterrer ton talent en disant, j'enterre ma femme parce que de toute façon, bouh. Tu vas faire quoi ? Quand on devient responsable quelque part, même responsable de la sono, même responsable de la louange, on prend une responsabilité devant Dieu. Dans quel état tu vas rendre cette équipe de louange ? Dans quel état on va rendre nos enfants ? C'est ça être responsable. C'est ça aimer. C'est les préparer à. On a toujours dit avec nos enfants, quel que soit le diplôme que vous faites, ça nous est égal. Vous pouvez faire n'importe quoi. C'est pas ça qui est le plus important pour nous. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez Jésus dans votre cœur, que vous aimiez Jésus et que vous soyez capable d'aimer votre conjoint et d'aimer vos enfants. Ça, c'est le plus important. Et on peut aimer nos frères et sœurs. Ça, c'est le but pour lequel Dieu nous a aimés. Alors, voici une question pour nous. En quoi mes actions et mes réactions sont-elles en train d'aider les autres à être prêts pour le retour de Jésus-Christ ? Est-ce que je contribue à ce que les autres grandissent et aiment plus Jésus ? Ou bien mes réactions prouvent plutôt que je défends mes intérêts ? Ça, c'est la vraie question de l'amour. Dernier point. En tant que nouveau chef de famille, Christ a introduit un nouveau rapport à l'autorité. Bon, je suis conscient que je vais toucher un sujet très délicat maintenant. Paul va aborder les aspects très pratiques dans les relations nouvelles qui sont au sein de la famille. Écoutez bien, Paul, je le répète, va aborder des aspects pratiques. Il va montrer comment les relations doivent fonctionner dans la patria de Dieu. Alors, il va utiliser pour ça ce qu'on appelle le jumelage des relations soumission-autorité. D'un côté, il dira les femmes doivent se soumettre à leurs maris. De l'autre côté, les maris doivent exercer leur autorité envers leurs femmes. D'un côté, il dira les enfants doivent se soumettre à leurs parents. De l'autre côté, les parents ont aussi des responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, notamment bien les élever, les aimer, etc., ne pas les énerver. Les esclaves doivent se soumettre à leurs maîtres et les maîtres doivent aussi une responsabilité vis-à-vis de leurs esclaves. Et donc, la notion de père dans l'Antiquité, elle implique toujours la notion d'autorité. Et donc de soumission. Qu'on le veuille ou non, dans une famille, il y a une autorité. Et là où il y a une autorité, il y a un principe d'autorité-soumission. Alors je vais parler un peu de ça. Sans autorité, il n'y a pas de famille. Ce n'est pas une option dans la famille de Dieu. Et d'ailleurs, c'est souvent là où il n'y a pas d'autorité qu'il y a l'anarchie. Imaginez un instant si maintenant il n'y avait plus d'autorité dans ce pays. Même sortir de chez soi serait un risque. Donc on est bien content d'avoir la police pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais quand ils nous rappellent qu'on a dépassé les 50 km/h et qu'ils nous disent on doit vous verbaliser, on n'est pas content. C'est là qu'on voit notre petit côté rebelle à l'intérieur. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui s'active à l'intérieur. D'ailleurs, dites-vous une chose, dès l'instant où on vous dit tu dois te soumettre, regardez votre cœur. Tout d'un coup, il y a le buste qui se gonfle, les épaules qui montent, il y a la voix qui change. Moi, me soumettre, tu m'as déjà vu, oui. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Et pourtant, Jésus va être formel. Il va dire, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Qu'est-ce que Paul dit? Un des signes que nous sommes vraiment en train d'adorer Jésus, de le révérer, c'est qu'on se soumet les uns aux autres. Il y a un principe ici qui est en action dans toute la famille de Dieu, c'est la soumission à l'autorité du Père dans la famille. Et la soumission, eh bien, elle n'est pas naturelle pour un être humain. J'aime beaucoup cette petite histoire, c'est un enfant qui, son père lui dit « mais tu vas obéir, oui ?» Et au bout de 3 fois, il finit par, parce que son père lui dit « tu vas t'asseoir ?»« Non ! Assieds-toi que je te dis !»« Non ! Assieds-toi que je te dis !» Et le petit s'assied fait « je suis assis, mais dans ma tête, je suis debout. » Ça, c'est propre à la relation humaine. C'est propre, c'est contre nature. La plupart des gens n'obéissent pas par choix. On obéit par obligation. Pourquoi vous respectez les 50 km/h sur la route? Parce que vous avez peur de prendre un PV et de perdre des points. Pas vrai? Soyez honnête. C'est tout. C'est pas parce que, oh le gentil panneau, oh le gentil gouvernement, qui, oh je vais bien lui soumettre parce que j'aime beaucoup le gouvernement, alors je vais rouler en 50. Trouvez-moi un gars comme ça et je lui vous paye le restaurant. En fait, si on ne pouvait pas obéir à nos patrons ou aux policiers ou à nos parents, on le ferait par nature. C'est naturel. Moi, je dis souvent, la désobéissance, c'est naturel chez les enfants. J'ai eu 5 enfants, j'ai jamais dû leur apprendre la désobéissance. Jamais. Par contre, j'ai dû leur apprendre l'obéissance. J'ai compris que la désobéissance est livrée avec le pacte à la naissance. C'est pas une option, c'est dans le pacte de base. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine, c'est notre nature humaine. Et la désobéissance, elle est innée chez nos enfants. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'on vit dans un monde qui exalte la rébellion? Si nous nous coupons de l'autorité, nous nous coupons de la nature du Père, et les conséquences, c'est que nous sommes coupés de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'attaques contre l'autorité dans cette société. Le but, c'est de détruire la famille, de détruire l'Église. Et lorsqu'il n'y a plus de présence d'autorité du Père, la famille n'est plus en sécurité. Mais là où il y a des pères, là il y a la sécurité. Moi, je rencontre des jeunes gens, je voyage dans pas mal d'églises, et je rencontre des jeunes gens. Je parlais encore avec l'un d'eux hier, et je l'entendais, il était en larmes devant moi. Et son cri, c'était « je veux un père ». Je veux quelqu'un qui m'aide. Je veux quelqu'un qui me dise qui je suis. Je veux quelqu'un qui me prenne par la main et qui me dise ce que je vaux, parce que je me sens tellement mal, je me déteste tellement, je ne sais pas comment faire. On a besoin d'un père. On a besoin de quelqu'un de fort, de mature, qui se tient à côté de nous, qui dit « Hey, je vais te dire ce que je vois en toi. » C'est de ça qu'on a besoin. En tant que nouveau chef de famille, Christ est venu montrer l'exemple. Il a démontré cette autorité dans une vie entière de soumission à son Père. Je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Tout ce que je fais, c'est la volonté de mon Père. Je fais toujours la volonté de mon Père. Toutefois, pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Sans cesse, Jésus a démontré cette attitude. La soumission, c'est la caractéristique des disciples de Jésus-Christ. On a du taf, hein? C'est l'ADN dans la famille et de la patria. Toute personne née de nouveau qui fait partie de la famille a cet ADN de la soumission en lui. Bien sûr, il faut l'activer, hein? Faut l'activer. C'est comme quand tu reçois une carte bancaire, tu vois? Tu dois l'activer pour pouvoir l'utiliser, hein? Il y a des gens, ils ont là que ça sert à rien d'avoir une carte bancaire et jamais l'activer, hein? Ça sert à rien du tout. Si je la regarde, oh le bel ma carte, hein. Moi j'ai reçu une belle carte rouge là de ma banque. Comme ça vous savez de quelle banque je suis. Et je leur dis, oh, le bel, ma carte. Vous devez absolument faire un paiement pour pouvoir l'activer. D'accord. Donc je peux ne pas l'activer. Comment est-ce qu'on active cet ADN de la soumission en nous chaque fois que nous choisissons de nous soumettre contre notre nature? Vous savez, ma femme, elle a dû apprendre à se soumettre à son mari. J'ai une femme de caractère. Elle est formidable, ma femme. Mais elle a compris quelque chose. C'est que la soumission, c'est une question de foi. Parce que vous savez, mesdames, il faut beaucoup de foi pour se soumettre à un homme imparfait. Mais si les femmes peuvent voir Jésus au-dessus de leur mari, ça sera possible pour elles de se soumettre. Parce que c'est un principe de Dieu. Cet homme à qui tu te soumets, c'est un homme qui va devoir rendre des comptes sur la manière dont il t'aura aimé. Parfois, c'est mieux d'être une femme. Bien sûr, on a tous des blessures, et je termine par là. Nous avons tous des blessures concernant l'autorité. Nous avons tous été blessés un jour par une autorité. Moi, j'ai été profondément blessé par mon père, parce que pendant toutes les années où il nous a élevés, il avait des problèmes, il a vécu la guerre d'Algérie, il est revenu, il était alcoolique. Il a lui-même été séparé de son père quand il avait 18 mois jusqu'à ses 6 ans, parce que mon grand-père a été prisonnier de guerre à la frontière prussienne. Il a vécu beaucoup de choses. À 22 ans, il a vécu deux guerres. À 22 ans, il avait vécu 7 années de guerre. Ça détruit un homme. Et mon papa n'a pas su nous protéger. Et il a causé des blessures dans nos cœurs. Parce que les gens blessés blessent les autres. Heureusement, il s'est converti avant de mourir. Et à l'âge de 35 ans, pour la première fois, alors qu'il était sur son lit de mort, il a pris un papier, il a mis mon nom dessus, avec celui de mes frères, et il a dit « Je vous aime ». C'était la première fois que j'entendais mon père me dire qu'il m'aimait. 2 mois avant qu'il décède. Je bénis Dieu pour ce moment. Mais on a tous des blessures dans notre cœur. Et vous n'êtes pas responsable de vos blessures. Vous êtes responsable de vos réactions à cette blessure. Votre blessure ne doit jamais être une excuse pour demeurer dans la rébellion. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu. Ayez le Christ. Aimez. Voilà, j'ai dû faire un copier-coller qui ne marche pas du tout. Le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église lui-même rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Vous savez, la source de l'autorité, c'est l'amour. Le moyen de l'autorité, c'est le don de l'amour, pardon, excusez-moi. Le moyen de l'autorité, c'est le don de soi. Et le but, c'est l'autorité, la maturité, pardon. J'aimerais terminer par vous dire quelque chose. C'est qu'il y a un endroit où l'ADN de la rébellion a été vaincu d'une manière définitive. Lorsque Jésus s'est retrouvé sur cette croix, lorsqu'il a été crucifié, les clous qui se sont enfoncés dans ses mains et dans ses pieds, c'était les clous de notre rébellion. Il les a pris en lui et il les a mis à mort. Il a détruit cet ADN de la rébellion en nous pour faire naître en nous un autre ADN qui est l'ADN de la soumission au Père. Et le seul remède à un mauvais rapport à l'autorité, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il m'a fallu venir plus d'une fois dans la présence de Dieu pour pouvoir trouver cette grâce d'être libéré de ma rébellion. Et il y a une question que Jésus nous pose en venant mettre un nouvel ADN dans son Église. C'est, est-ce que tu vis selon cet ADN? Ou est-ce que tu es encore toujours avec ton ADN ancien qui est celui de la rébellion? Et peut-être qu'il y a des bénédictions dans ta vie qui sont brisées, qui sont empêchées, parce que toi, ma sœur, tu refuses de te soumettre à ton mari. Peut-être qu'il y a des bénédictions dans ta vie, mon frère, qui sont bloquées parce que tu refuses d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur n'a toujours pas confié l'appel au ministère que tu as, il ne l'a toujours pas concrétisé parce que tu n'as pas pris ta responsabilité jusqu'à ce jour de le faire dans ta propre famille. Peut-être que aujourd'hui tu n'es toujours pas dans le ministère parce que ta langue a servi non pas à prier pour les autorités de ton église, mais à les critiquer. Je connais un homme, je l'ai vu critiquer l'église tout le temps où je l'étais là. Aujourd'hui, 3 de ses enfants ne marchent pas avec Dieu, dont un ne lui parle même plus. Parce qu'il y a une compréhension que vous devez avoir, c'est que l'autorité, c'est une cascade. Ça coule de là, ça passe chez moi, et ça descend après. Si moi, je ne me soumets pas à l'autorité, je me coupe de l'eau qui arrive, et je ne peux plus la donner. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit vous parler un instant, et de vous dire, mais qu'est-ce qui dans ma vie, aujourd'hui, a péché contre cet ADN de l'amour et de l'autorité? Y a-t-il quelque chose que je dois mettre en ordre avec le Seigneur? Y a-t-il quelque chose que je dois mettre en ordre avec le Seigneur? Une des applications directes du fait de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est que nous qui sommes sauvés, nous sommes désormais faits pour vivre dans une nouvelle famille qu'est l'Église, au sein de laquelle nous sommes appelés à rendre actif notre ADN nouveau. L'amour qui se donne est la soumission confiante à l'autorité du Père qui passe par l'autorité des hommes. Et tout ça en vue d'une chose, la maturité. Les gens qui aiment et qui sont soumis sont les gens qui parviennent à la maturité. Et ça, c'est le but de Dieu pour ta vie, que tu deviennes quelqu'un de mature. Amen.